Wifi.
Merci d'écouter RFI 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Martin Guèze.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Une nuit de feu au Cachemire, violents échanges de tirs entre l'Inde et le Pakistan.
Un nouveau seuil de violence a été franchi. Le Pakistan a répondu par des tirs d'artillerie aux frappes aériennes indiennes. De nombreux civils ont été tués de chaque côté de la frontière. Trois avions de chasse indiens se sont écrasés. Nous ferons le point avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghazali, dès le début de cette édition.
À Rome, c'est le grand jour, celui du conclave.
Celui où 133 cardinaux du monde entier doivent désigner dans le plus grand secret un successeur au pape François. Véronique Guémard, notre envoyée spéciale à Rome, nous donnera le mode d'emploi de cette élection, pas comme les autres. En France, le président de la transition syrienne, Ahmed Al-Shara, rend visite à Emmanuel Macron, ce qui suscite beaucoup de questions. Enfin, une voix féerique en fin de journal, celle de Suzanne Vega, légende de la folk américaine, de retour après 11 ans de silence.
Frappes aériennes contre tirs d'artillerie, nuit de violence au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan.
Et des morts civiles des deux côtés de la frontière, 26 morts au Pakistan, annonce l'armée. Après des raids aériens menés par l'Inde au Cachemire et dans le Pendjab, l'Inde qui dit agir en réaction à l'attaque terroriste qui a fait 26 morts il y a deux semaines au Cachemire indien, un attentat qui n'a jamais été revendiqué, mais les autorités indiennes accusent Islamabad. Engagés dans la nuit, les échanges de tirs se poursuivent ce matin autour de la frontière. La riposte pakistanaise qui a fait 8 morts et une trentaine de blessés dans le village indien de Poonch. On apprend aussi que 3 avions de l'armée indienne se sont écrasés selon une source sécuritaire indienne. Retour sur cette nuit de violence avec notre correspondante au Pakistan, Sonia Ghazali.
Le ciel est devenu rouge et quelques secondes plus tard, des explosions ont retenti. Témoignage d'un résident de Bahawalpur dans la province du Punjab. Contacté par téléphone tôt ce matin, il nous dit ne jamais avoir entendu d'explosion aussi forte de toute sa vie. Les vitres de sa maison ont été brisées par la puissance de la déflagration vers 1h du matin. Mourid Khe, à une quarantaine de kilomètres de Lahore, dans l'est du Pakistan, est l'autre ville du Punjab qui a été visée la nuit dernière par des frappes de l'Inde. Kotli, Muzaffarabad et deux autres zones dans le Cachemire administrées par le Pakistan ont aussi été touchées. Aucune infrastructure militaire ne se trouve près des cibles qui ont été frappés. L'Inde assure qu'il s'agit de sites terroristes. Cet acte d'agression haineux ne restera pas impuni, a réagi le Premier ministre pakistanais sur les réseaux sociaux. Une déclaration faite dans la foulée d'une riposte du Pakistan à coups de tir d'artillerie sur la ligne de contrôle qui sépare les deux pays dans la région du Cachemire. Le Pakistan dit avoir abattu 5 jets de l'armée indienne, dont 3 rafales ainsi qu'un drone. Information confirmée par le ministre de l'Information qui a donné à 7h locale ce matin une conférence de presse retransmise à la télévision. L'armée pakistanaise aurait également frappé plusieurs postes de sécurité de l'armée indienne de l'autre côté de la ligne de contrôle. Sonia Ghazali, Islamabad, RFI.
Et ce matin, le secrétaire d'État américain Marco Rubio appelle à désamorcer la crise entre les deux pays. La Chine appelle à la retenue. Un conseil national de sécurité doit se tenir dans 1 heure au Pakistan. Le conflit au Cachemire a retrouvé minute par minute, suivi des derniers événements sur notre fil en direct, assuré par la rédaction numérique de RFI. Pour tout savoir, rendez-vous en une de notre site www.rfi.fr avec votre invité, Andréane. Entretien avec Didier Chaudet, juste après ce journal.
Nouvelle attaque de drones ce matin à Port-Soudan.
Et ce pour le 4e jour consécutif. Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement soudanais. Après l'aéroport et des dépôts de carburant, c'est la base navale de la ville qui a été prise pour cible. Des attaques répétées attribuées au FSR, les forces de soutien rapide et du général Emeti, en guerre depuis maintenant plus de 2 ans avec l'armée régulière du chef de l'État Abdel Fattah al-Burhan. Le Soudan qui a par ailleurs rompu hier ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis, qualifié d'État agresseur par le gouvernement soudanais qui accuse Abu Dhabi de soutenir financièrement et militairement les paramilitaires.
Eux appellent à la paix, que cela soit en Inde ou au Soudan, les cardinaux du monde entier sont réunis à Rome.
Ils sont 133 venus de 70 pays et ils ont publié une déclaration commune hier appelant les fidèles à prier pour la paix. Déclaration préalable au conclave, les prélats qui ont la lourde tâche aujourd'hui de désigner un successeur au pape François, mort le 21 avril dernier. Pour tout savoir de ce conclave, on appelle ce matin Véronique Guémard, présentatrice de Religion du Monde sur RFI et envoyée spéciale à Rome. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour Martin.
Concrètement Véronique, qu'est-ce que c'est au juste un conclave ?
Alors conclave, le terme vient du latin cum clavis, fermé à clé. Littéralement, les 133 cardinaux qui vont entrer en conclave seront enfermés à clé. Les relais de téléphonie mobile situés au Vatican seront désactivés à partir de 15h. Les cardinaux n'auront plus accès à leur téléphone portable ni à la presse pour ne pas subir de pressions extérieures sur le choix du futur pape et garder donc toute leur capacité de discernement. Alors les cardinaux arriveront en procession vers 16h30, en chantant la litanie des saints en latin, pour entrer dans la chapelle Sixtine, à côté de la basilique Saint-Pierre. Puis, à l'intérieur, ils entonneront le chant du Veni Creator, Viens Saint-Esprit Créateur. Tous les cardinaux devront prêter serment la main sur l'évangile en promettant secret absolu, sous peine d'être excommunié, bien que certains scrutins parfois aient été révélés par la suite. Le personnel a lui aussi prêté serment et sera sans communication. Puis, le maître des cérémonies liturgiques pontificales, Monseigneur Diego Ravelli, prononcera la fameuse formule en latin « Extra omnes, tous dehors ». Et les portes de la chapelle Sixtine se refermeront, elles ne rouvriront que lorsqu'un pape aura été élu. La cheminée au-dessus de la chapelle Sixtine laissera s'échapper de la fumée blanche et les cloches de la basilique Saint-Pierre sonneront à la volée.
Voilà, le conclave n'a plus de secret pour nous. Merci beaucoup Véronique Guémard en direct de Rome sur RFI. Un conclave sur lequel on reviendra bien sûr tout au long de la journée sur RFI. Les premières fumées, qu'elles soient noires ou blanches, sont attendues au mieux en début de soirée. RFI, il est 7h06 à Paris, où se rend ce mercredi Ahmed Al-Shara, le président syrien par intérim, qui effectue son tout premier déplacement européen et qui rend visite à Emmanuel Macron à l'Elysée, la présidence française qui dit vouloir œuvrer à une construction d'une nouvelle Syrie libre, stable et respectueuse. Alors que depuis la chute de Bachar el-Assad, début décembre, le pays fait face à de terribles violences communautaires qui touchent notamment les minorités alaouites et druzes. Une visite donc qui fait beaucoup parler et qui doit permettre d'apprendre à cerner les intentions d'Ahmed Al-Shara, selon Cédric Labrousse, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales.
Pour la France, et en tant que premier gouvernement en Europe à accueillir le président intérimaire syrien, c'est prendre le pouls. En fait, il ne va pas forcément y avoir de grandes annonces, il ne va pas forcément y avoir de contrats, etc. C'est davantage prendre le pouls de ce personnage. Parce que finalement, on en parle beaucoup, mais on ne le rencontre pas. On a rencontré son ministre des Affaires étrangères, on connaît ses représentants diplomatiques, on connaît ses prises de parole en Syrie, mais en Occident, on ne le connaît pas lui. Et vous savez, quand on est dans un contexte de personnification du pouvoir, comme c'est le cas maintenant en Syrie, à nouveau, j'ai envie de dire, eh bien, il faut connaître le personnage qu'il est. Et donc, le but, c'est aussi de voir qui il est directement, pas seulement par les intermédiaires médiatiques ou sa propre communication.
Des propos recueillis par Alice Froussard, journée chargée décidément à l'Elysée, puisque avant Ahmed Al-Shara, c'est Friedrich Merz, tout fraîchement et difficilement nommé chancelier allemand, qui sera reçu par Emmanuel Macron.
Toujours en France, la famille de Nathalie Debailly demande des excuses publiques à l'État.
L'État français sur le banc des accusés ce mercredi, qui comparaît pour faute lourde après ce féminicide. Nathalie Debailly, assassinée par son ancien compagnon en 2019, et ce malgré 4 plaintes et mains courantes déposées. Ses frères et son fils accusent l'État de ne pas avoir pris au sérieux ces multiples alertes, d'autant qu'elle avait aussi reçu de nombreuses menaces de mort, une procédure judiciaire qui est loin d'être une première, Tanita Fallet.
Attaquer l'État, c'est montrer les défaillances de tout un système. Isabelle Steyer, avocate de la famille Debailly.
Ce que souhaite la famille Debailly, c'était de démontrer des dysfonctionnements massifs et qui amènent à des files de féminicide et à toutes les violences que l'on connaît.
Maître Steyer est spécialiste des violences faites aux femmes. Elle a déjà fait condamner l'État en 2020 dans un cas de féminicide. Mais cette procédure reste assez rare, car extrêmement complexe.
Puisqu'il faut pouvoir prouver une faute lourde, et que après avoir une condamnation devant une cour d'assises avec parfois un appel, c'est extrêmement difficile de remobiliser encore de l'énergie pour se battre contre l'État.
Une force qu'a trouvée la famille Debailly au nom de toutes les autres femmes. Nathalie s'était rendue 4 fois au commissariat dans les mois précédant son assassinat.
Ce qui est arrivé à ma sœur, le refus de la protéger, c'est le symptôme d'un système entier.
Nicolas Debailly, frère de la victime.
Nous, on veut changer les choses. On veut que le chiffre des féminicides baisse. Donc les chiffres ne baissent pas. Et c'est parce qu'il y a un refus de revoir le système dans sa globalité. Et ça, c'est notre combat aussi demain.
Et espère qu'une condamnation permettra d'accorder plus de moyens à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Clara Chigny et Tanita Fallet du service France de RFI.
Plus de temps à perdre pour les ministres du gouvernement guinéen.
Qui n'ont plus que quelques heures pour remplir leur déclaration de patrimoine sous peine d'être tout simplement limogés. Le président guinéen John Dramani Mahama qui a présenté un nouveau code de conduite et parmi les mesures incitant à plus de transparence, il y a donc cette déclaration de biens qui s'applique aux ministres, aux vice-ministres et aux collaborateurs du président. Une nouvelle tentative de lutte contre la corruption, lutte jusqu'ici assez vaine, Victor Cariou.
Interdiction d'accepter les cadeaux pouvant influencer la prise de décision, d'utiliser des fonds publics pour favoriser ses proches, instauration de limites et de contrôle des voyages officiels et prohibition complète d'acheter des biens appartenant à l'État. Voici quelques-unes des mesures qui doivent désormais s'appliquer à l'ensemble du personnel nommé par le président, ministre compris. Lors de la présentation lundi 5 mai du nouveau code de conduite, le président John Dramani Mahama a également annoncé avoir sanctionné toutes les personnes travaillant pour l'exécutif qui n'avaient pas rempli leur déclaration de biens à temps. Une amende correspondant à 4 mois de salaire qui sera versée à un fonds médical nouvellement créé. Si cette annonce a été saluée par plusieurs organisations de la société civile, ces dernières s'interrogent tout de même sur la pertinence d'instaurer de nouvelles règles. Le problème, disent les organisations, réside dans l'application effective de ces lois. Le Ghana compte en effet déjà de nombreuses régulations visant à combattre la corruption et le népotisme adoptées au cours des précédentes administrations, sans que ces dernières aient permis de véritablement limiter les atteintes à la probité, et ce, déjà au temps du premier mandat de John Dramani Mahama. Victor Cariou, Accra, RFI.
Et les membres du gouvernement ghanéen qui ont donc jusqu'à ce soir pour remplir leur déclaration de patrimoine.
En football, un match déjà dans la légende, remporté au forceps par l'Inter Milan.
Si vous aviez aimé le match aller, vous avez dû adorer le retour après un nul débris des 3 partout lors de la première manche. L'Inter et le Barça ont réussi à faire encore mieux en demi-finale retour de la Ligue des Champions, ponctuée par cette victoire 4-3 des interistes en prolongation. L'Inter qui attend désormais le PSG au Arsenal. Grande soirée spéciale sur RFI, demi-finale retour à suivre dès 18h50. Universel.
Et on revient sur cette Ligue des Champions dans le journal des sports de Victor Missistrano dans un peu plus d'une demi-heure. On se quitte en musique, Martin, avec une icône de la folk américaine sur le retour.
La première fois que sa voix a été entendue à la radio, c'était il y a plus de 40 ans. Suzanne Vega, Rompt le silence. 11 ans après son dernier album, la voilà de retour avec Flying with Angels, une voix féerique que je vous laisse découvrir ou redécouvrir avec Edmond Sadaka. She's a dusty Springfield of the South,
leatherette pants and pale pink. Avec ce nouvel album, Suzanne Vega retrouve une veine rock absente de ses disques les plus récents. À 65 ans, sa voix est intacte et les textes toujours d'une grande sensibilité, comme par exemple lorsqu'elle rend hommage à l'un de ses héros, Bob Dylan. I'm the great man's chambermaid, I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed, clean crumbs from his typewriter. Le public avait découvert la voix de Suzanne Vega au milieu des années 80 avec Luca, un titre vite devenu un succès mondial des États-Unis à la Pologne en passant par l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Pour ce nouveau disque, la chanteuse a travaillé avec l'un de ses complices de toujours, le guitariste irlandais Gary Leonard, qui fut aussi compagnon de route de David Bowie. Il a participé à la composition de plusieurs des 10 titres, comme Galway, qui raconte une histoire un peu mystique autour des occasions manquées et des coïncidences de la vie. I want to take you to the west coast of Ireland, to Galway to play
in the spray and the sea. I've dreamed about. Voilà, elle nous emmène jusqu'à Galway, un programme engageant et un nouvel album de Suzanne Vega, ça s'appelle Flying with Angels et ça vient de sortir.
Et ce sera notre choix musical tout à l'heure, juste avant 10h. Merci à vous, Martin Guez, RFI. 7h13 à Paris. Et c'est l'information de la nuit, cette escalade inquiétante et meurtrière ces dernières heures entre l'Inde et le Pakistan autour de la région du Cachemire, région disputée. Dans le journal, vous entendiez notre correspondante à Islamabad nous décrire ce ciel devenu rouge d'un coup pendant la nuit, puis ces déflagrations entendues par des témoins lors de frappes de missiles menées par l'Inde dans plusieurs régions du Pakistan. Et New Delhi assure avoir visé des cibles terroristes, ce que dément Islamabad. Henri Poste, le Pakistan a mené des tirs d'artillerie sur la ligne de contrôle qui sépare les deux pays dans la région du Cachemire. Pour l'heure, le bilan est de 26 morts civils côté pakistanais et 8 côté indien. Pour mieux comprendre, on est en ligne ce matin avec Didier Chaudet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Géopolitologue associé à l'Observatoire de la Nouvelle Eurasie, spécialiste du monde persan et Asie du Sud. Merci à vous d'être avec nous ce matin, Didier Chaudet. Ça fait un moment que les tensions sont vives entre l'Inde et le Pakistan sur le sujet du Cachemire. Est-ce que là, on atteint un niveau jamais vu ?
On atteint un niveau important, mais en même temps quelque chose qui était attendu. Le gouvernement Modi a voulu reprendre en main le Cachemire depuis plusieurs années, avec une idéologie de l'Hindutva, donc d'extrême droite, identitaire, face à une population majoritairement musulmane, ça ne pouvait que poser des problèmes. Et du côté du Pakistan, le Cachemire, ça reste quand même leur Alsace-Lorraine. Donc en fait, tout ça était attendu et les choses sont passées presque comme on pouvait l'imaginer, une attaque terroriste au Cachemire, pour montrer que les Indiens ne tiennent pas si bien que ça le territoire.
Ça, c'était le 22 avril dernier, hein, New Delhi dit avoir agi cette nuit en réaction à cet attentat dont vous parlez.
Et une réaction militaire, parce que Modi ne peut pas faire autrement par rapport à ses électeurs, par rapport aussi à l'opposition qui lui demandait des comptes, et par rapport à sa propre idéologie. Donc là, on est dans une situation un petit peu classique qui demanderait une aide extérieure pour la paix, entre guillemets.
Alors, vous nous dites que l'Inde prépare en quelque sorte ce qu'il se passe là depuis quelques temps, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce regain de tension maintenant? Alors, il y a eu cet attentat, mais pourquoi maintenant ce regain de tension?
En fait, l'attentat terroriste au Cachemire a été un déclencheur, encore une fois montrant que l'Inde ne tient pas forcément si bien que ça le Cachemire. Il y a une réaction du coup par rapport aux électeurs de Modi. Et tout simplement, des deux côtés du pays, on parle du territoire voisin cachemiri comme étant occupé par l'autre. L'Inde aujourd'hui considère que la seule discussion qu'elle pourrait avoir avec le Pakistan sur le Cachemire, c'est sur les territoires qu'elle considère entre guillemets occupés par les Pakistanais, l'Azad Cachemire et le Gilgit-Baltistan. Donc en fait, des deux côtés, on considère que la frontière est caduque, qu'il faudra un jour la changer en sa faveur, bien sûr. L'attentat terroriste n'a été qu'un déclencheur de quelque chose qui est vraiment très ancré dans les têtes des élites des deux pays.
L'Inde et le Pakistan qui sont, on le rappelle, deux puissances nucléaires. Didier Chaudet, jusqu'où peut aller cette escalade concrètement? Qu'est-ce qui, à ce stade, pourrait raisonner les deux pays?
Ce qui pourrait raisonner les deux pays, c'est une implication notamment de grandes puissances pour pouvoir calmer les choses, pouvoir forcer à calmer les choses. L'idée selon laquelle les choses vont se calmer d'elles-mêmes, ça ne marchera pas vraiment, ça n'avait pas véritablement marché par le passé. Et aujourd'hui, on est face à deux puissances nucléaires. Si vous avez un échange limité, entre guillemets, d'un point de vue nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, c'est un impact sur le climat, c'est un impact sur l'agriculture au niveau mondial, avec la possibilité d'un milliard de personnes qui souffriraient de famine à cause de cet impact. On ne peut pas considérer cette situation comme extérieure à nous, Européens, ou à nous, communauté internationale.
Alors, vous parlez d'intervention de puissance extérieure. On a eu beaucoup de réactions dans le monde depuis ces dernières heures. Les États-Unis, par la voix de Donald Trump et de Marco Rubio, le secrétaire d'État, appellent à cesser l'escalade et à ouvrir un canal de discussion. La Chine aussi appelle Inde et Pakistan à faire preuve de retenue. De quel levier disposent ces puissances? Quels moyens de pression?
En fait, le problème, c'est que du côté américain, aujourd'hui, on est désorganisé. On ne veut pas s'impliquer comme acteur clé dans ces grands conflits. Il y a un repli qui ne veut pas dire isolationnisme. Mais malgré tout, on n'est pas face à une administration qui pourrait prendre les choses en main de façon professionnelle. Du côté chinois, on a peut-être la possibilité de voir quelque chose d'intéressant à arriver, c'est-à-dire que à défaut d'avoir une puissance occidentale qui réussit à calmer deux partenaires, parce que les Américains connaissent bien les Pakistanais et les Indiens, on pourrait imaginer une sorte d'équilibre de la terreur où les Chinois font comprendre aux Indiens que passer un certain nombre de lignes rouges, le Pakistan restant quand même un allié clé de la Chine, il pourrait soutenir un peu plus fortement les Pakistanais. On ne sait pas si dans les mois à venir, si les tensions continuent, si on ne verra pas la Chine déjà aider un petit peu en sous-main le Pakistan. On sait déjà que des avions indiens ont pu être abattus, y compris des rafales, on parle de 4 ou 5. Si ça se confirme, on pourrait déjà imaginer que les Pakistanais profite d'une aide militaire chinoise de plus longue durée qui a commencé bien avant la crise. Avant, c'était expliqué au conditionnel. Si ça se confirme, on pourrait passer à l'affirmatif.
Et bien sûr, on va continuer de suivre attentivement la situation dans la région. Merci beaucoup Didier Chaudet d'avoir répondu aux questions d'RFI ce matin. Géopolitologue associé à l'Observatoire de la Nouvelle Eurasie, spécialiste du monde persan Asie du Sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On revient sur cette situation dans toutes nos éditions ce matin. Et vous pouvez aussi suivre notre live dédié sur le www.rfi.fr avec toutes les dernières évolutions. On revient aussi ce matin, mercredi 7 mai 2025, cela fait 3 ans exactement depuis le début de l'emprisonnement en Iran des Français Cécile Kohler et Jacques Paris, tous deux accusés d'espionnage par Téhéran. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À cette occasion, ce matin, vous recevez dans nos studios à Paris la sœur de Cécile Kohler.
Oui, Noémie Kohler. Elle se bat depuis 3 ans pour obtenir la libération de sa sœur et du compagnon de celle-ci. Et depuis plusieurs semaines maintenant, elle alerte sur l'état de santé physique et psychologique de Cécile Kohler. Elle est en train de mourir à petit feu, dit-elle. Elle parle ouvertement de son désespoir. Cécile Kohler et Jacques Paris sont détenus dans la prison d'Evin, à Téhéran, dans une cellule qui reste allumée 24 heures sur 24, avec seulement 2 petites sorties par semaine, traitement considéré comme de la torture. Pour Paris, les deux Français sont des otages d'État, en quelque sorte une monnaie d'échange pour le régime iranien. Quelle mobilisation, quel espoir pour les familles 3 ans après. Noémie Kohler est avec nous dans 1 heure.
À tout à l'heure, Arnaud Pontus, pour cet invité international. En France, c'est l'histoire d'un ancien pirate somalien que l'on vous raconte ce matin. Un ancien pirate somalien depuis réinséré en France et désormais menacé de devoir quitter le territoire. Mahmoud Abdi Mohamed avait 22 ans lorsqu'il a pris en otage avec 4 autres Somaliens l'équipage du Tanit, un voilier français dans le golfe d'Aden. Abdi purge sa peine en prison, puis se réinsère en Bretagne, c'était il y a 10 ans, et désormais la préfecture lui demande de quitter le pays. Amélie Beaucourt l'a rencontré.
C'est dans l'arrière-cour d'un café dans un petit village de Bretagne qu'Abdi s'assoit pour nous raconter son histoire. Elle commence à 10 000 km d'ici, en Somalie, il y a 16 ans.
L'opération française de sauvetage du Tanit tourne au drame. Un otage tué, 4 autres libérés. L'armée française a mené une opération militaire contre les pirates somaliens.
Le pirate, c'est lui, Abdi, jeune pêcheur tombé dans l'engrenage d'une mafia locale qui envoie de jeunes hommes à la mer avec pour seule option de survie le pillage de navires. Il se souvient du premier voyage.
On est parti 11 jours, tout droit. Et le gasoil, c'est presque fini. On n'a pas d'eau, on n'a pas mangé. On reste là-bas toute la journée, soleil qui vient là. On est à 900 mètres de côte, ça veut dire, t'es mort, c'est comme ça.
Arrêté puis jugé en France après l'assaut du Tanit, Abdi accepte sa sentence. 9 ans de prison, avec l'espoir ensuite d'un nouveau départ. Il apprend le français et à sa sortie se fait embaucher. 10 ans de tranquillité qui s'arrête brutalement.
Je décidais, je travaillais aux restaurations. Un jour, je reçois une lettre de recommandé pour dire « je n'ai pas le droit de travailler, je suis acquitté, je suis menace de l'ordre public ». Après, j'ai perdu mon travail parce que le patron ne va pas me garder parce que c'est hors de la loi s'il me garde.
Refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour en France sous 5 ans, au motif qu'il serait une menace à l'ordre public. Pascal, une amie d'Abdi, l'a aidé à saisir le tribunal administratif.
Le recours qu'a fait Abdi, c'est de demander la suppression de ces 4 choses. Ils ont un peu coupé la poire en deux, c'est-à-dire qu'ils ont dit non, c'est pas une menace à l'ordre public. Et oui, il pourra rentrer en France avant 5 ans. Par contre, on lui maintient l'OQTF et on refuse le titre de séjour.
Son avocate a fait appel de la décision, mais toujours pas de réponse. Et en attendant, Abdi est coincé.
Je paye le retraite, je paye les impôts, mais maintenant, je n'ai droit de chômage, ni droit de travail, ni droit de vivre. En Somalie, moi, je connais presque personne. Maintenant, je connais que ma mère, mais ma mère, je pense qu'elle ne me connaît pas. Tous les copains que je connaissais avant, soit ils sont morts, soit ils sont en Europe, parce qu'au pays, c'est sécheresse, il n'y a pas de travail. La pêche, il n'y a rien. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Moi, ma vie, c'est en Bretagne, moi. Je suis breton, moi.
Un comité de soutien d'une centaine de personnes s'est constitué justement en Bretagne, et parmi elles, Chloé Lemasson, ancienne otage et femme du skipper tué dans l'assaut du Tanit, il y a 16 ans.
Un sujet signé à Béni Beaucourt.
RFI Matin.
Le jugement est imminent, il doit intervenir dans les prochaines heures. Deux jeunes Belges arrêtés au Kenya et accusés de trafic d'espèces vivantes, en l'occurrence 5000 fourmis. L'occasion pour nous ce matin d'évoquer ce commerce illicite qui prospère partout dans le monde. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
Notre question d'environnement ce matin, comment le crime organisé se diversifie dans le trafic d'espèces?
Eh oui Andréane, il n'y a pas que la drogue, la contrefaçon ou la prostitution qui rapporte. Le trafic d'espèces protégées, c'est un marché estimé à 20 milliards de dollars chaque année dans le monde, le quatrième marché illégal le plus lucratif. Ça rapporte et en plus c'est peu risqué, les peines de prison quand elles existent sont beaucoup plus faibles que celles du trafic de drogue par exemple. Bref, c'est très rentable.
À l'origine, le trafic d'espèces vivantes a servi à financer la guerre.
Les guerres, le terrorisme, c'est ce qu'on a appelé l'ivoire kaki. Charlotte Nittard est la présidente de l'association écologiste Robin des Bois.
Le braconnage des éléphants pour leur ivoire, pour acheter des armes, a explosé, notamment au moment des conflits en Angola. Et donc là, il y a une synergie qui est très connue pour les éléphants, qui est moins connue, mais tout aussi effarante pour les girafes. Et finalement, l'aire de répartition et le rétrécissement, la réduction des populations de girafes, s'est vraiment intensifié à cause de Boko Haram, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Et c'est le même phénomène, Florent, qu'on observe en ce moment dans l'est de la République démocratique du Congo.
Oui, les éléphants, mais pas que, servent à acheter des armes et des munitions.
Ça se voit aussi beaucoup en RDC avec les rebelles du M23 qui, mais c'est pas les seuls, hein, tous les groupes armés illicites dans cette zone chassent notamment les éléphants pour leur ivoire, les hippopotames pour de la viande et les gorilles pour soit vendre les juvéniles, les bébés en animaux de compagnie vivants, soit les parents avec juste la tête ou juste les bras.
Mais depuis quelques années, les groupes criminels investissent ce trafic et ne reculent devant rien.
Oui, en témoigne ce qui s'était passé par exemple en 2017 dans un zoo de la région parisienne. Un rhinocéros tué à coups de fusil et ses cornes arrachées pour de prétendues vertus aphrodisiaques. On va écouter le témoignage à l'époque du directeur du parc de Thoiry, Thierry Duguet.
Tout le monde est abasourdi parce que c'est inimaginable que ce type de braconnage qui est pratiqué malheureusement dans la nature en Afrique maintenant arrive chez nous en Europe.
En Europe et partout dans le monde.
Oui, partout. Les mafias ont trouvé là un nouveau filon. La biodiversité pour diversifier son business, ramasser encore plus d'argent. Charlotte Nittard, la présidente de Robin des Bois.
Ça se voit partout. Ça se voit notamment en France où on a souvent, quand il y a des descentes de police pour faire des saisies de drogue, en même temps des saisies soit de tortues, soit de perroquets gris. Et on a vu aussi des bateaux transporter des tonnes de cocaïne et puis quelques singes hurleurs en même temps.
Ils usent d'ailleurs les mêmes méthodes que pour le narcotrafic, beaucoup de cash, d'argent liquide qui circule et même des go-fast avec des voitures ouvreuses pour convoyer les animaux.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Florent, chacun à son niveau?
Eh bien, tout simplement, ne pas acheter d'espèces protégées, ne pas être complice, c'est ce que nous dit Charlotte Nittard.
Quand on achète de l'ivoire, de la corne de rhinocéros, des écailles de pangolin, bah finalement, on participe à une économie souterraine qui est source de violence, d'une violence inouïe, qui est source de corruption, qui est source de malheur pour les populations.
Et source aussi de déstabilisation des pays. Les Nations Unies s'en alarmaient dès 2016.
Merci Florent Guignard, c'était notre question d'environnement sur RFI. On passe à la musique et notre playlist du mois préparée par nos spécialistes musique maison. Aujourd'hui le titre Green par Green Tipeng.
It's always our business, one shed and one skin. Feel it all around and let you enter within. There's no resisting, you may as well give in and give over. Stop waiting for clovers and miracles. Ain't no one delivering except from you. The growth so far has been exceptional, but still there's a lot to do, a lot to face, a lot to learn, a lot to change, a lot to take from it all. Yeah, I know you want to run, I know you do. Yeah,
There's no other way to stray through. Yeah, 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 yeah.
Green Tipeng et le titre Green sur RFI, c'est sur notre playlist ce mois-ci à retrouver sur toutes les plateformes. RFI dans 30 secondes, l'information africaine.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui...
Comment vivre avec des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs?
Demain,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.